Nouveau coup de théâtre concernant
les enfants
de demandeurs d'asile politique dans un CADA, centre d'accueil pour demandeurs d'asile.
Ils réalisent l'émission.
Nous sommes les enfants du CADA.
Bonjour.
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 On s'est réunis pour faire une émission de radio.
On a choisi de vous parler de sport, des droits des enfants et de commencer par un premier portrait.
Il s'agit d'un résident qui vient du Soudan et qui a obtenu son statut de réfugié politique. Pouvez-vous nous dire votre pays d'origine?
Soudan.
Est-ce que vous aimez la France?
Oui.
Depuis combien d'années vivez-vous en France?
Non.
D'après vous, qu'est-ce que le CADA?
Le CADA aide les gens et fait toutes les démarches.
Le CADA il aide les gens pour les papiers et tout ça. Voilà.
Qu'est-ce qui fait que tu viens au CADA?
Al-Qaeda, هي اللي دمند أزيل بيساعد الناس في الأوراق وكل المحتاجين بيساعدهم.
Al-Qaeda c'est pour le demande asile. Il aide les gens pour les papiers.
Aimes-tu le CADA pourquoi?
يعني هي Al-Qaeda هي وسائل للأوراق ووسائل للتعليم وبتعلمك كيف أصول فرنسا.
Il aide les gens pour les papiers. Il aide tous les gens et ils ont habité au CADA.
Pourquoi les intentrivonnés sociaux de CADA vous aider?
Marie-Laurie est dans le CADA et nous aide dans les irrats. الدكتور والإجراءات ثلث ميلادي وكل الإجراءات المطلوبة.
Il aide pour les papiers et pour les rendez-vous parce que il parle pas français. Il aide.
Quel est le premier lui ou en U veut arrivé en France.
بيتعاملنا معاملة كويسة كلنا وكل الأسرة.
Oui, il aime toutes les familles.
Est-ce que la langue française est facile?
اللغة الفرنسية difficile. لأن أتعلم لأنه الأولاد لازم أتعلم وحياتي هتكون في فرنسا. كل الحياة في فرنسا ولازم أتعلم اللغة الفرنسية. عشان اقدر اعيش مع المجتمع.
La langue française c'est difficile pour lui. Il prend le français pour la vie et tout ça.
Comment faites-vous pour apporter la langue française?
بقرا في المدرسه بدرس في المدرسه كل ثلاث وخميس اسمه اللي بارلي فرنسي.
Il va le mardi et le jeudi à l'école pour apprendre le français.
Comment se passe votre condition au CADA?
الإجراءات ماشية كويس في الكادا وكل الأوراق المطلوبة بيعملوها لنا.
C'est bien. Les papiers, le CADA il fait tous les papiers. pour lui.
Que se passera-t-il pour vous après votre 100 jours séjour au CADA?
القاعدة هي كويسة بتساعد كل الناس المحتاجين وفي أي حاجة في المنزل وفي الدراسة وفي الدكاترة وفي أي حاجة في كل شيء.
Oui, les CADA et les tout le monde pour les maisons et pour les gens.
On va maintenant écouter Tal avec son titre à l'international.
Le football est un sport collectif opposant deux équipes de 11 joueurs autour d'un ballon. L'objectif du football est de marquer des points dans le but adverse. C'est le sport le plus connu du monde avec environ 264 millions de joueurs. À côté des joueurs, il y a également l'équipe d'encadrement. Je suis allée à la rencontre de M. Harry Shaw, directeur sportif du club de joueurs tourien implanté à Jouletours.
Radio Cada!
Bonjour M. Harry Shaw, je vais vous poser quelques questions. Est-ce que vous pouvez vous présenter?
Je m'appelle Yohann Hérichaud, j'ai 30 ans, je suis gérant d'une société de formation d'agents de joueurs. Je m'occupe de joueurs sportifs, donc dans le football, dans l'automobile, dans le rugby et en ce moment aussi dans la boxe.
Qui sont les adhérents du club?
Les adhérents du club. Alors, les adhérents du club donc, de Jouer les Tours. Alors, les adhérents du club de Jouer les Tours sont donc, le président, donc, M. Bédoyan, le directeur général Abel Pires, le coach actuel. Donc, il y a eu un souci par rapport au dernier coach, donc ils ont changé de coach. Donc, maintenant, le coach actuel en intérim, c'est Stéphane Gervais, et, donc, accompagné d'Abel Pires. Et l'entraîneur de la 2, c'est Monsieur Mohamed Dergam. Et après, responsable du matériel, donc qui est très important, c'est Jean-Bernard Chouteau.
Y a-t-il des entraînements pour les enfants ou les adolescents ?
Alors, au club de Jouer les Tours, oui, c'est la particularité. Il y a déjà un joueur qui a été formé au club de Jouer les Tours, donc qui est Jerry Guénard, donc qui est avec nous. Donc, il parlera tout à l'heure. Pour l'instant, notre priorité, c'est les enfants. Donc, c'est ce qui a été mis en projet par rapport au club de Jouer les Tours. Pour l'instant, ça prend un petit peu ses formes. Ça met du temps, parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans l'organigramme. Donc, ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Il y a eu aussi beaucoup de retard. Donc, c'est ce qui a permis aussi pour les enfants pour s'inscrire, ce qui a été très compliqué. Changement aussi d'entraîneur. Beaucoup de choses qui permettent aujourd'hui de faire avancer les choses, mais aussi reculer les choses. Donc, il faut faire attention. On est un club de foot. Il y a des gamins qui comptent sur nous. Donc nous, on doit donner la ligne directive. Donc ça, c'est la priorité, l'éducation, donc l'école. Ça, c'est les priorités qu'on explique aux gamins. Ils veulent tous devenir des joueurs professionnels. Que leurs ambitions aujourd'hui qui les nourrit pour venir à l'entraînement, c'est ça. C'est de pouvoir avoir la possibilité de te taper dans un ballon et un jour se faire remarquer. Il y a des démarches à faire. Donc ça, par contre, c'est que le club, il faut qu'il l'explique. Donc ça, c'est du temps à apprendre et ce temps-là, c'est un temps précieux.
Y a-t-il une ou plusieurs équipes féminines ?
Plusieurs équipes féminines en ce moment donc, qui s'émergent. Donc c'est super parce qu'en ce moment les filles commencent à briller de mille feux. Hors de Jouer les Tours, donc dans ma société aussi j'ai des stagiaires, il y a beaucoup de stagiaires féminines donc qui s'orientent dans le métier d'agent sportif au féminin. Donc, parce qu'en ce moment les filles en équipe de France, elles sont quatrième, chose que les garçons ne sont même pas aujourd'hui. Donc elles font peur. Quand elles sont sur un terrain, elles font peur. Ça donne beaucoup d'élan par rapport aux filles. Donc il y a des filles aujourd'hui qui jouent beaucoup. Donc moi je m'occupe d'une joueuse qui s'appelle Roxane, qui joue à Tours, qui est une très bonne joueuse. Et je sais que demain elle pourra devenir une très bonne joueuse. Donc elle est de Tours. Elle a été formée au portugais de jouer. Faute de problèmes de catégorie, elle a dû aller jusqu'à Tours pour qu'elle puisse progresser davantage, parce que Tours aujourd'hui est monté en D2, donc avec les filles. Pour progresser, elle est partie là-bas. Donc en espérant qu'elle puisse avoir son opportunité elle aussi, saisir sa chance. Mais en ce moment, chez les filles, à Jouer les Tours, je crois qu'il, sans me tromper, il doit avoir 3 équipes de filles.
Comment est-ce que ça se déroule pour venir s'entraîner ?
Alors, pour venir s'entraîner, c'est tout simple. L'enfant, il vient avec, les crampons, protège tibia, la sécurité avant tout. Parce qu'un coup, on ne peut pas savoir comment ça se prend. Les crampons, ça peut faire mal quand les gamins ils vont à pleine vitesse pour faire un tacle. Donc, s'inscrire auprès de l'accueil du club. Puis normalement, l'accueil vous donne une fiche de renseignement pour inscrire l'enfant. Puis après, à partir de là, l'inscription se fait par rapport à l'enfant. Si l'enfant prend plaisir par rapport à l'entraînement, par rapport à ce qu'il apprend, c'est là où c'est lui qui va donner le feu vert. Ni le papa ni la maman peut donner le feu vert, c'est l'enfant qui va dire s'il est intéressé, il veut s'inscrire et à partir de là, il s'inscrit. Il y a des parents aujourd'hui qui ont donné la possibilité à leurs enfants d'ouvrir plusieurs sports, donc d'essayer plusieurs sports, natation, escrime, etc. Donc c'est pour ça aujourd'hui aussi, il y a les journées des sports, des associations, donc qui donnent la possibilité aux enfants de découvrir divers sports, donc pas qu'un seul sport, donc divers sports. Sachant qu'on est très fort dans pas mal de sports, et en ce moment dans l'athlétisme, on est super fort. Donc on l'a prouvé, je pense, récemment, donc au championnat d'Europe. Aujourd'hui, dès que la France commence à bouger, son peuple est derrière elle. Donc les enfants en premier, parce qu'aujourd'hui, ils veulent qu'on gagne, et ça motive beaucoup les sportifs. Donc ça, c'est le truc le plus important aujourd'hui.
Depuis combien de temps dirigez-vous une équipe ?
Alors moi je dirige pas d'équipe, je gère des joueurs, donc je pourrais dire le nombre de joueurs, le nombre que j'ai géré un joueur. Donc déjà de 1, je gère mon petit frère, donc qui aujourd'hui est passé à Jouer les Tours, il est parti à Monaco, il a eu son contrat pro à Monaco, a été prêté pour avoir du temps de jeu à Clermont-Ferrand. De Clermont-Ferrand, il a pas eu assez de temps de jeu, il est parti au Portugal, il est revenu, il a fait que 2 matchs au Portugal, ça s'est pas très bien passé parce qu'il y a la langue aussi, faut faire attention à ça. Donc c'est pour ça qu'on apprend à l'école l'anglais. L'anglais est une langue internationale qui permet aujourd'hui où qu'on soit dans le monde, on puisse s'exprimer, se faire comprendre. Mon frère, il n'a pas trop appris l'anglais à l'école, il a payé. Donc, et après, il est retourné à Monaco, et là, aujourd'hui, il évolue à Saint-Tron, donc, qui est le meilleur défenseur de la Ligue 2 belge, qui a marqué hier, donc, et qui a son troisième but, et que vous pouvez suivre sur la chaîne de Formagent Sportif ou sur ma chaîne à moi.
Pouvez-vous nous donner quelques informations sur le métier de directeur sportif ?
Alors, le directeur sportif, c'est la personne qui va prendre les grandes responsabilités dans tout ce qui est la catégorie sportive. Responsabilité du matériel, responsabilité des entraîneurs, éducateurs, des joueurs, des parents, des dirigeants. Essayer aussi de ramener une nouvelle dynamisme. Donc moi, mon rôle à moi, c'était ça, c'était ramener une nouvelle dynamisme. Donc par rapport au fait de pouvoir toucher le monde professionnel par rapport aux enfants, donc ils puissent avoir la possibilité de parler avec des professionnels comme on fait en ce moment. C'est pas donné à tout le monde, donc ils puissent avoir la possibilité de toucher à leurs rêves, les questions qu'ils ont envie de poser, comment y accéder, comment aujourd'hui il faut se comporter, donc toutes ces questions-là, donc c'est ce qu'on essaye de mettre en place pour que les joueurs aujourd'hui, ceux qui ont les qualités, ceux qu'on appuie derrière, ceux qui suivent aussi donc l'éducation, la discipline, parce que c'est très important. Ben à partir de là, ces joueurs-là, ben on essaye de les accompagner au plus haut pour qu'ils puissent atteindre, ben comme Diri l'a eu. Lui, il a fait un essai à Auxerre quand il était plus jeune. C'est pas parce qu'on fait un excès que c'est dans la poche. Au contraire, il faut encore travailler. Certains n'arrivent pas à passer le cap. Et ben, ils retournent à la case départ, donc ils retournent au club.
Qu'est-ce que vous faites au quotidien pour le club ?
Alors, au quotidien pour le club, donc, je m'occupe en ce moment beaucoup de mon fils. Donc, parce que il a 12 ans, donc on va arriver dans un âge qui est très, très important, d'autant plus qu'il a l'oncle qui est derrière, donc il y a mon petit frère qui est derrière, donc il a les qualités pour réussir. À l'école, c'est un très bon élève. La priorité aujourd'hui, c'est, je resterai toujours sur l'école. La base pour un enfant, c'est l'école. Après, le talent, ça vient tout seul. Moi, mon but à moi, c'est de voir un joueur qui a le potentiel, comme je l'ai dit tout à l'heure sur l'autre question, d'avoir un joueur qui a le potentiel pour qu'il puisse avoir de la maturité dans son jeu. Donc en ce moment, je vais plutôt dire un groupe de joueurs sur lequel je suis. Il y a des joueurs en ce moment, c'est les 14 ans que je suis, parce qu'aujourd'hui, ils sont dans un âge où il y a des clubs qui peuvent les remarquer. Mais pour que les clubs puissent les remarquer, il faut leur faire montrer qu'ils sont là. Mon travail à moi, en tant que directeur sportif, c'est de faire montrer qu'il y a de la productivité au sein de mon club, pour que ces clubs professionnels jettent un œil sur nos joueurs qui ont travaillé dur avec leur entraîneur, avec le club, et à partir de là qu'ils puissent partir du club pour qu'ils puissent accéder au début du cycle de devenir un joueur professionnel.
Est-ce que des joueurs de Jouer les Tours sont devenus professionnels ?
Mon frère Stéphane Dalma, qui est passé par Paris Saint-Germain, qui est passé par Châteauroux, Lens, Paris, Marseille, l'Inter, Tottenham, Standard. Après il y a Sylvain Distin qui est passé aussi, donc qui évolue à Everton. Emmanuel Desgeorges qui a été, donc lui c'est l'une des plus belles histoires de Jouer les Tours. Il a commencé sa carrière, donc ça prouve qu'il faut jamais rien lâcher. Donc il a commencé sa carrière professionnelle à l'âge de 29 ans. En 3 saisons, il a tout connu d'un joueur de haut niveau. Le but d'un joueur quand on est dans un championnat, c'est d'atteindre l'Europe. Ce qu'on appelle l'Europe, c'est les coupes d'Europe. Donc lui, en une saison, il a été champion de la Coupe de France. Il est sorti d'un club amateur, donc il a sauté 5 divisions. Il est devenu professionnel. Il a été champion de Coupe de France à Gagnon. Il a joué une UEFA, donc sachant que pour lui c'était impossible. Donc c'était une belle histoire. Après, il a été prêté à un club à Amiens et aujourd'hui il est entraîneur. Donc c'est la reconversion de la plupart des joueurs professionnels, ils vont faire une reconversion, c'est dans l'entraîneur ou agent de joueur ou éducateur, recruteur ou observateur.
Est-ce que vous faites un autre métier dans l'univers du football ?
Ah oui, là aujourd'hui moi ce qui me prend beaucoup de temps c'est les joueurs donc dans le foot aussi, mais c'est mon pilote donc qui est dans l'automobile, donc qui est autiste. Pareil, c'est une autre bataille, c'est une autre lutte. Lui, il a été, donc c'est le sport qui lui a permis aujourd'hui de s'épanouir, d'avoir confiance en lui, sachant qu'il était fermé, donc les autistes sont beaucoup fermés. Avoir beaucoup de responsabilités, parce que l'automobile, il est dans la F3. La F3, c'est l'antichambre de la F1. Ça va vite, il atteint les 300 km/h, il reçoit beaucoup de jets. C'est du travail qu'il devait faire auparavant, mais c'est ce qui lui a permis de le canaliser. L'avantage dans sa maladie, c'est qu'il arrive, c'est comme un ordinateur. Les autistes, quand ils aiment que faire quelque chose, c'est difficile d'être plus fort qu'eux. Et lui, sur le circuit, c'est difficile d'être plus fort que lui. Donc aujourd'hui, les promoteurs, les sponsors sont intéressés. Donc à partir de ce moment-là, ils viennent vers lui. Et en même temps, on explique leur histoire. Donc c'est pareil, il est sur son site internet, il s'appelle Jordan Perroy.
Est-ce que des mineurs peuvent jouer comme professionnels de football ?
Comme professionnels ? Oui, alors ils peuvent, mais il faut l'autorisation du représentant légal. Et après, puis aussi le feu vert aussi du club professionnel. Pour que le joueur puisse être professionnel, il est obligé de proposer un contrat d'avenir, donc qui est le contrat professionnel, en attendant qu'il ait son contrat donc de stagiaire professionnel, parce que c'est la dernière marche donc pour entrer dans le mode professionnel. Et oui, les mineurs, il y en a pas mal. Hein. Il y a pas mal de mineurs aujourd'hui qui sont professionnels et qu'ils ont que 15 ans. Il y a un joueur de Saint-Etienne qui a que 17 ans. Et il joue. Il y a le joueur Martial de Monaco l'an dernier, pareil, il avait 17 ans. Et il joue. Donc oui, il y a beaucoup de joueurs mineurs. C'est ce que les clubs recherchent. C'est ça qui est dangereux. C'est ça qu'il faut faire attention. C'est qu'ils recherchent plutôt... plus le gamin est jeune et plus il fait des gestes comme un adulte, plus à partir de ce moment-là, les clubs ont commencé à lancer une bataille qui est malsaine, qui est la bataille de la finance. Donc c'est là où les salaires, enfin les transferts, un club donne une position et après ça s'en surréchit et ça c'est pas bien. Parce que le joueur après il commence à avoir une valeur et le joueur ne prend plus de plaisir. Il joue plus au football pour prendre du plaisir. Et là c'est dangereux.
Que devient le joueur après leur fin de carrière ?
Comme je te l'ai dit tout à l'heure, normalement ils sont haut entraîneur, recruteur, agent sportif, conseiller sportif, éducateur, conseiller de club. Je crois que j'ai tout dit, entraîneur. Ils restent dans le monde du sport parce qu'en fait, leur salaire qu'ils avaient auparavant, c'est des salaires aujourd'hui qui... C'est un train de vie qu'ils avaient auparavant, ils vont faire le nécessaire pour avoir encore ce train de vie-là. Donc ils vont rentrer dans la branche qui vont leur permettre d'avoir un bon train de vie.
Monsieur Richard, je vous remercie pour cette interview. On va maintenant s'écouter une chanson de Shakira, Waka Waka.
During its all time, choosing your battle, pick yourself up and dust yourself up. Back in the saddle, you're on the front line, everyone's watching, you know it's serious, we're getting closer, this isn't over, the pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it, when you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh, tamina, mira, sangalewa, cause this is Africa, tamina, mira, eh, eh. Time for Africa. For Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sakalewa. Ana, waka, na. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sakalewa. It's time for Africa.
I'm waiting on a journey, biggie, biggie, mama. What F to Z. My streets are still on my journey, biggie, biggie, mama. From east to west. My city, waka, waka, my eh.
This is Africa.
continuer la découverte du football on a rencontré un jeune vétéran de 23 ans.
Radio Kada.
Bonjour. Vous vous appelez comment ?
Alors, je m'appelle Guénard Géré, j'ai 23 ans et je joue au sein du club de Jouer les Tours.
Ça fait combien de temps que vous jouez dans le club, de Jouer les Tours ?
Alors, j'ai commencé à prendre de passion du football à l'âge de 9 ans. Donc, j'ai passé de Poussin, Benjamin, moins de 13, moins de 15, moins de 18 ans. Et maintenant, senior.
Est-ce que vous êtes un professionnel en foot ou pas ?
Ah oui, avant, j'étais dans le désir d'être joueur professionnel. Donc, j'ai passé par des clubs de renommée comme le Tour FC. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir en tête l'idée d'être joueur professionnel.
Et c'était votre rêve d'être un joueur professionnel ou pas ?
Oui, c'était mon rêve. Parce que moi, je n'étais pas très bon à l'école, donc j'avais pris du côté du foot. Et j'aurais dû aussi apprendre mes devoirs parce que ça ne fait pas tout, le foot. Donc, c'est bien de continuer les études jusqu'au bout.
Et ça vous plaît, le foot, ou pas ? Vous aimez bien ?
Ah oui, je ne peux pas vivre sans le foot. Hein. Le foot, c'est ma passion et je rêve que de ballon. Après ma carrière de joueur, je ne sais pas. J'étais dressé dans le monde sportif. Donc ensuite, il y a plusieurs voies dans le monde sportif. Donc je ne sais pas encore d'aller dans quel monde encore. Je suis en plein de réflexion.
Comment ça se déroule pour venir s'entraîner ?
Comment ça se déroule ? On a un entraîneur. Donc l'entraîneur, c'est lui qui nous impose le rythme d'entraînement par semaine. Donc ça peut être de deux entraînements par semaine en sein des clubs amateurs comme dans les clubs professionnels. Dans les clubs professionnels, par contre, c'est un rythme de 5 entraînements par semaine. Donc c'est un peu plus soutenu. On n'a pas beaucoup de temps libre avec ça.
Comment avez-vous commencé ?
Alors j'ai commencé en bas de chez moi. En bas de chez moi avec des amis et on a commencé à taper le ballon dans la cour.
Je vous remercie et au revoir.
On revient pour avec un deuxième portrait. On part cette fois en Arménie.
Pouvez-vous nous dire votre pays d'origine ?
Men Kayastani Tsink.
En Arménie.
Est-ce que vous aimez la France ?
Oui.
De combien d'années vivez-vous en France ?
Écoutez ou qu'est-ce ?
2 ans.
D'après vous, qu'est-ce que le Kada ?
Pense qu'à Danitia.
On reste dans la maison.
Qu'est-ce que c'est fait que tu viens au Kada ?
Voilà. C'est après le Hamad. Mais.
Pour vivre.
Aimes-tu le Kada ? Pourquoi ?
Ah. Oui.
Pourquoi le social social de Kada vous aide ?
Mais que autant terra, mais qu'est-ce qu'il est chez, mais que c'est vos chemins. Չգիտենք problème ունենք, մեզ օգնում են.
On a des problèmes, ils nous aident et on reste dans cette maison pour rester parce que c'est pas notre pays.
Est-ce que il aide le parent et les enfants?
Ah, chat.
Oui, beaucoup.
Quel est le premier lieu où vous êtes arrivé en France?
Est-ce qu'arak vordera pour menk tour?
Tour.
Est-ce que le langue français, c'est facile. Est-ce que vous le parlez?
C'est bien, mais c'est compliqué de parler.
Comment s'est passé votre kidé au Kada?
Tours, Kada est tours.
On va dans une école pour apprendre le français.
Qu'est-ce que passait-il pour vous après votre séjour au Kada?
Comme
elle habite là, elle a des copains, des copines. Elle va être triste.
Merci.
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 Après cette portrait, on va écouter Indila avec le titre
tourner dans le vide.
Il était bon, le temps basané, le regard timide, les mains tout abîmées. Il taillait la pierre, fils d'ouvrier, il en était fier, mais pourquoi vous riez? Non, ne le jugez pas, vous qui ne connaissez pas les vertiges et le labeur. Vous êtes faussement heureux, vous troquez vos valeurs. Lui, il est tout mon monde et bien plus que ça. Seul, je crie son nom quand vient les désarrois. Et puis tout s'effondre quand il n'est plus là. J'aimerais tellement lui dire, mais je n'ose pas. Lui qui me fait tourner dans le vide, vide, tourner dans.
De retour, vous écoutez toujours Radio Cada. On poursuit notre programme avec le concours sur le droit des enfants. Pour commencer, on va découvrir pourquoi une chanson a été créée avec l'interview de Marie-Lou.
Radio Cada !
Bonjour Marie-Lou, peux-tu te présenter en quelques mots ?
En quelques mots, alors je travaille dans l'éducatif social depuis plus de 30 ans. Au sein de la structure où je travaille actuellement, qui s'occupe de demandeurs d'asile, qui héberge des demandeurs d'asile, je fais aussi de l'animation en lien avec l'apprentissage du français.
Dans quel cadre s'inscrit cette chanson que tu as créée avec les enfants ?
Alors, c'est la Fédération des droits de l'homme qui fait un concours annuel donc chaque année pour promouvoir les droits des enfants. Donc il y a une thématique du droit des enfants chaque année qui est choisie par un comité, je suppose. Je ne sais pas trop comment le sujet est choisi. Et cette année, c'était donc le droit de jouer, le droit à loisir, le droit à la culture, qui était le thème de l'année. Et le CADA, ça fait plusieurs années, en fin de compte, qu'il est inscrit, qu'il s'inscrit à ce concours et que des enfants du CADA participent à ce concours.
CADA, c'est pour Centre d'accueil des demandeurs d'asile. Maintenant, quels étaient les objectifs de cette création pour toi ?
Alors moi, comme j'ai dit, je fais de l'animation qui est toujours en lien avec l'apprentissage du français. Donc pour moi, il y avait une thématique d'apprentissage du français. Et là, en l'occurrence, comme les enfants parlent quand même français plutôt bien en principe, la thématique c'était plutôt de faire d'écrire un texte, ce qui était la demande des enfants. Ils voulaient écrire une chanson, ils voulaient chanter. Donc c'est là qu'on m'a demandé, puisque j'ai déjà fait des choses de ce genre-là, si je pouvais travailler la chanson avec eux. Et donc on est parti sur le fait d'écrire un texte comme une poésie, donc avec des pieds, des rimes, des strophes, des refrains. Et c'est donc, ils ont dû apprendre les pieds, les rimes, la musicalité aussi, puisqu'ils voulaient chanter ces mots qu'ils allaient écrire. Et après, nous, comme on est dans un centre pour demandeurs d'asile, c'était aussi de promouvoir les pays d'origine des enfants, de parler. Parce que vu les sujets abordés, je ne sais pas si c'était une promotion, mais voilà, de parler des pays d'origine des enfants.
Comment t'y es-tu pris pour permettre aux enfants d'aborder les paroles parfois dures dans les pays cités dans la chanson ?
Alors, on n'est pas parti des paroles, hein, parce qu'on est parti en fin de compte d'un dossier géopolitique sur les problématiques des enfants de chacun des pays qui étaient représentés par les enfants qui faisaient partie du groupe au sein de l'atelier. Donc on avait 5 pays. Donc on avait l'Angola, on avait l'Albanie, on avait l'Arménie, on avait la Mongolie et on avait le Nord-Soudan. Donc on a constitué des dossiers géopolitiques pour savoir quels étaient les problèmes des enfants dans ces pays qui les empêchaient d'avoir accès aux loisirs, à la culture et d'être des enfants comme tous les enfants devraient être.
Alors comment ont été écrites les paroles ? Est-ce que les enfants ont participé à l'écriture ?
Alors, non seulement ils ont participé, mais c'est eux qui ont écrit complètement le texte. Étant donné qu'on avait peu de temps pour écrire cette chanson, j'ai quand même un petit peu fait un cadre, moi, personnellement, pour un petit peu baliser, je dirais, parce qu'on ne pouvait pas passer trop de temps à choisir. Et donc, c'est les enfants dans les dossiers géopolitiques qui ont choisi les sujets qu'ils voulaient traiter dans la chanson. Une fois qu'ils ont choisi le sujet... à partir des articles qu'on avait pu trouver, par exemple de paroles d'une maman ou des choses comme ça, qu'on pouvait reprendre et réutiliser, on a vu après avec la structure d'une poésie, les rimes et tout ça. Donc on est parti des rimes. Quand on avait une phrase, il fallait trouver la rime. Donc on choisissait un mot qui pouvait rimer et après on voyait comment on pouvait faire la deuxième phrase pour la rime et les pieds. Et c'est comme ça que petit à petit, le texte s'est construit, sachant que tous les enfants participaient sur chaque strophe, parce qu'on a fait une strophe par pays. Au début, on voulait faire des strophes assez courtes. On a vu que ce n'était pas possible, parce qu'il fallait raconter à chaque fois une histoire. Donc, on est, en fin de compte, on s'est retrouvé avec 12 vers pour chaque histoire. Et en 12 vers, on arrive à raconter une histoire par rapport à la problématique de l'enfant. En fin de compte, il se trouvait que tous ces enfants qui avaient des problématiques dans les pays... La conséquence, c'était souvent qu'ils se retrouvaient enfants des rues. Donc du coup, c'est devenu notre thématique centrale, enfants des rues du monde. Et puis, qu'est-ce qui conduisait dans chaque pays ces enfants des rues dans la rue ?
Qu'est-ce qui a été difficile dans la réalisation de cette activité ?
Je dirais que la problématique la plus difficile, ça a été au niveau du Nord-Soudan. Parce que la seule problématique des enfants sur lesquels on trouvait des articles, c'était les problèmes de l'excision. Donc une thématique quand même assez difficile par rapport à des enfants, le mariage précoce, le voile qui est un sujet quand même un petit peu sensible. Donc j'étais pas trop, c'était un peu compliqué, c'était un petit peu compliqué parce que j'essayais d'éviter certains mots. J'ai parlé de pureté D'ailleurs, c'est le mot qui a été repris après dans la chanson, parce qu'il est, voilà, la problématique, c'est la virginité dans le cadre de l'excision. Expliquer ce que c'était que la virginité à des enfants, c'était, moi, je me sentais pas quand même très à l'aise. Et je dirais que là, vraiment, la problématique qu'on a eue, c'est vraiment ça, quoi. C'était pureté. Oui, ça veut dire quoi, pureté, Marie-Lou? voilà. Et j'ai pas pu me défiler, quoi. Donc, mais en fin de compte, ça s'est bien passé. Mais oui, moi, j'ai trouvé ça quand même compliqué.
Et comment réagissent les parents à cette activité?
Alors, je sais pas trop. Il y a des enfants qui ont parlé hein, de ce qu'ils faisaient dans l'atelier, des thématiques. Je suis pas sûre que questionnant le Nord-Soudan, les parents aient compris à 100% de quoi parlait leur fille dans la chanson. Moi, je leur ai expliqué, mais ils m'ont fait totale confiance. Donc, même s'ils n'ont pas tout compris, ils m'ont dit c'est pas grave, quelles que soient les paroles, notre fille est autorisée à chanter, on vous fait confiance. Donc bon, donc voilà, ça s'est fait dans un cadre de confiance. Et ceux qui ont vraiment saisi complètement les paroles, ils étaient d'accord avec ça. Il y avait une autre problématique qui n'était pas facile, c'était aussi l'enfant soldat. Mais tous les parents m'ont laissé carte blanche en fin de compte. Et donc les enfants ont pu vraiment chanter complètement librement les thématiques qu'ils ont choisies.
Et d'après toi, qu'est-ce que les enfants ont compris des paroles et du droit des enfants à l'issue de cette chanson?
Ah ben ils ont chaque groupe d'enfants par rapport au pays, ils ont bien compris de quoi ils parlaient parce que ça a été débattu, ça a été discuté, etc. Alors sachant quand même que quand il y avait confrontation hein, sur le choix à faire, c'est toujours les enfants du pays dont on parlait qui décidaient en dernier ressort. Le travail s'est fait en commun. Les enfants ont participé à toutes les strophes sur les 5 pays, mais c'est les enfants du pays concerné qui choisissaient, c'est eux qui devaient chanter, donc c'était quand même eux qui avaient un droit de regard sur ce qu'ils pouvaient chanter, ce qu'ils acceptaient de chanter. Mais ils ont été étonnants parce que rien leur a fait peur, quoi. Si les enfants de leur pays avaient cette problématique-là, même si elle était dure, ils trouvaient ça normal d'en parler.
Comment s'est passée la représentation devant le public ?
On a beaucoup, beaucoup travaillé au niveau des ateliers, une fois que le texte était écrit, sur la cohésion du groupe, qu'il devait y avoir un groupe, que c'était pas, on venait pas chanter individuellement. Et donc, c'est vraiment ça. C'était pas forcément la performance...
Performance scénique
audio, en tout cas du chant. Hein. Pour moi, ce qu'il fallait rechercher, c'était pas forcément la performance au niveau de la manière de chanter, d'être parfait au niveau du chant. Mais c'était que ce soit un groupe d'enfants solidaires qui se présente et qui chante cette chanson. Et ça, au début, c'était pas toujours évident, parce qu'en plus, on était sur des thématiques différentes, avec des pays différents. Donc ça pouvait créer des partages aussi, hein, puisqu'ils chantaient, chaque groupe d'enfants s'avançait sur la scène pour chanter sa strophe. Mais c'est donc au niveau du refrain, où là, l'unité s'est faite. Et ça se sent, quoi. Et vraiment, sur les dernières semaines, le travail qu'on a fait en atelier se voit sur scène. Vraiment. Ça, j'étais très contente du résultat. Et je crois qu'eux aussi, c'était pas c'est moi qui chante et je suis en avant. C'est arriver à ce qu'ils chantent en groupe et que dans leur tête, ils soient un groupe. Ce qui était d'ailleurs, je dirais, représenté sur le refrain final, parce qu'il y avait un refrain entre les 4 premières strophes, et il y avait un refrain final qui était un peu plus militant, revendicatif. Et là, les enfants s'accrochent par les épaules et tout ça pour marquer cette unité. Et dressent le point tous ensemble, comme on peut le faire dans une manifestation ou quoi. Et là, l'unité, elle est bien là, quoi. Elle est là dans revendiquer le droit des enfants pour tous les enfants du monde.
Quel a été le résultat de cette représentation pour les enfants ? Quand ils seront passés devant la Ligue des droits de l'homme locale?
Moi, je me lasse pas de regarder la vidéo du spectacle, parce que la première fois qu'ils ont chanté, ils ont chanté en début de ce spectacle, ils ont chanté à la fin. Donc, ils étaient très stressés au début et la voix sortait pas. C'était assez étranglé, la voix sortait pas. Et ils ont été applaudis. Pas mal, mais bon... Et ça leur a donné beaucoup, ça leur a donné confiance. Et quand ils ont chanté à la fin du spectacle, en plus ils s'étaient détendus entre-temps, ils étaient beaucoup plus à l'aise. Alors du coup, on était sur des thématiques dramatiques et il y avait un peu des rires et tout ça parce qu'ils étaient complètement détendus. Mais la voix là, du coup, elle est sortie et ils ont été vraiment très très applaudis. Et la satisfaction du travail qu'ils ont fait, c'était ce plaisir-là qu'ils ont eu sur des choses qui n'étaient pas évidentes. Le public, en plus, il a dit que vraiment, ils avaient les poils sur les bras qui se dressaient devant la dureté des paroles, quoi, hein, que c'était un texte qui était très, très fort. Et ça, les enfants, ils ont créé de l'émotion. Ils ont été applaudis à cause de cette émotion qu'ils ont créée et ils étaient très, très fiers. Vraiment très fiers. Et ça, vraiment, c'était bien, quoi.
On se retrouve maintenant avec la présentation d'un nouveau sport, la boxe.
La boxe est un sport de combat que j'aime bien. Je suis allé rencontrer M. Khalib Bougard du club de boxe du Morier à Joué-les-Tours. Il m'a expliqué son intérêt pour ce sport.
Alors, Yokada, je suis là, la France.
Bonjour M. Bougard, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Alors bonjour, je m'appelle Khalib Bougard. Je suis entraîneur de boxe et éducateur sportif, donc j'ai 33 ans, j'interviens dans le domaine de la boxe française, donc au niveau local. Donc de ce côté-là, ça c'est pour mon parcours un petit peu, on va dire mon profil un peu sportif. Sinon professionnellement, voilà, je travaille dans les métiers du sport, dans tout ce qui est remise en forme, l'encadrement scolaire et des activités pour seniors.
Pour vous, comment c'est la boxe ? Est-ce que ce que cela représente ?
Alors, avant tout, pour moi, la boxe, c'est une passion. Donc, j'ai commencé la boxe il y a très longtemps, à peu près 15-16 ans. C'était pour moi un repère au niveau de la vie, ce qui m'a donné un très bon équilibre pendant mon enfance et mon équilibre un petit peu aussi scolaire quand j'étais étudiant. La boxe française, pour moi, véhicule beaucoup, beaucoup de valeurs qui sont très complémentaires avec la vie, le quotidien, le côté professionnel, le côté scolaire et le côté civique. Donc on apprend beaucoup de valeurs et c'est ces valeurs-là que maintenant que je m'efforce de faire revéhiculer auprès des jeunes que j'encadre à l'école de boxe et puis auprès de mes licenciés.
Qui peut faire de la boxe à partir de quel âge ?
Tout le monde peut faire de la boxe. Je m'occupe le mercredi après-midi de l'école de boxe et j'encadre des enfants qui sont âgés entre 8 et 12 ans. Moi j'ai le groupe des 8-12 ans et Georges Lanier, le second entraîneur des jeunes et adolescents, lui va s'occuper des groupes des 12-16 ans. Donc nous avons vraiment un public divers et varié, ça c'est une grosse disparité au niveau de l'âge. Donc le plus jeune a 8 ans et le plus vieux dans notre club doit avoir une soixantaine d'années. Donc, tu vois, ça, c'est assez large. Donc, ce que je disais juste auparavant, c'est que je m'occupe de l'école de boxe. J'ai des enfants qui sont âgés entre 8 et 12 ans. Pas en dessous, malheureusement, parce qu'au niveau moteur et au niveau, et sur le côté un peu psychologique, c'est un peu trop tôt. Il y a des prérequis, il y a notamment le fait d'avoir de la coordination, de savoir se repérer. En dessous de 8 ans, c'est pas encore assez, ce serait pas forcément très intéressant pour un enfant d'évoluer. Sauf peut-être un petit peu sur le domaine moteur. Donc, c'est un petit peu sur la coordination, apprendre à bouger, s'orienter, travailler un petit peu avec les différents membres, la main droite, la main gauche, jambe droite, jambe gauche, donc leur apprendre aussi à rééquilibrer un petit peu toutes ces fonctions-là. Mais sinon, voilà, avant, c'est pas forcément très pertinent et très pragmatique de travailler avec des enfants sous 8 ans, en dessous de 8 ans.
Quelle boxe pratiquez-vous et quelles sont les techniques ?
Donc moi, en fait, je pratique la boxe française. C'est un sport de percussion pied-point. Donc il y a différents coups de pied, différents coups de poing. Donc les coups de poing sont vraiment très similaires avec toutes les autres boxes. Donc il y a le direct, les crochets, les uppercuts. Ça, on peut très, très bien le retransposer dans toutes les formes de boxe. Et au niveau, par contre, des percussions avec les jambes, contrairement au kickboxing ou à la boxe thaï, nous avons par contre quelques obligations, notamment le fait d'armer les coups, donc de toujours de bien passer les hanches, éviter tous les coups de pied qui sont portés, on va dire de façon très linéaire. Et nous par contre, contrairement aux autres sports pied-point, on frappe avec le pied, d'où le nom de savate boxe française. Donc la surface de percussion chez nous, c'est le pied et pas les tibias. Donc c'est un sport qui nous demande vraiment d'être vraiment à une distance à peu près égale à une distance de jambe pour pouvoir évoluer dans cette discipline. Ce qui fait qu'on a c'est un sport, on va dire, de percussion. On va travailler sur beaucoup d'enchaînements et très peu de contact avec le partenaire ou l'adversaire en fonction de la situation. Parce que c'est vrai qu'il y a deux formes d'opposition en savate boxe française. Il y a ce qu'on appelle l'assaut et le combat. Donc l'assaut, c'est de la percussion contrôlée, c'est-à-dire qu'on travaille uniquement sur de la touche. Et le combat, par contre, on est vraiment sur de la percussion portée. Et là, il y a vraiment une recherche, si tu veux, de mettre l'adversaire hors d'atteinte. C'est-à-dire, voilà, on va ou gagner le combat en marquant le plus de points possible, ou bien chercher aussi le hors-combat. Le hors-combat, ça veut dire réussir à toucher son adversaire pour qu'il ne puisse pas évoluer et continuer.
Depuis combien de temps vous entraînez-vous ? Avec qui ?
Donc moi, ça fait à peu près plus de 15 ans, plus de 16 ans, voilà. Ouais, plus de 16 ans que je m'entraîne. Je continue à m'entraîner aussi, parce que là, j'occupe tous les soirs, c'est moi qui m'occupe des compétiteurs. Donc je continue aussi à m'entraîner très dur aussi avec eux, mettre les gants avec eux pour les faire évoluer. Donc je mets les gants avec des enfants, je mets les gants avec des compétiteurs, je mets les gants avec beaucoup de filles. Je vais insister un peu sur ce côté-là, parce qu'on a une très grosse population de filles dans notre club. Vu que c'est un sport, on va dire, qui demande notamment beaucoup de souplesse, qui est assez esthétique, c'est pas un sport qui est, on va dire, très destructeur au niveau du visage, donc on a vraiment une grosse population féminine. Et c'est vrai qu'à la salle, hormis les compétiteurs, les loisirs débutants et les intermédiaires, là je parle vraiment des groupes adultes, travaillent uniquement sur de la touche. Donc on travaille vraiment que sur de la percussion, toucher, sans forcément chercher à mettre, là par contre, voilà, je vais insister encore une fois, le partenaire, parce qu'à la salle on est partenaire de boxe, on n'est pas adversaire, sans mettre les partenaires en difficulté. On peut très bien mettre des gants avec quelqu'un d'âgé ou une fille, un garçon, malgré le poids, malgré la taille. On travaille de façon vraiment très intelligente pour pouvoir s'améliorer et puis profiter de tous les bienfaits de cette discipline.
Faites-vous de la compétition à quel niveau ?
Alors, j'ai fait très longtemps de la compétition. Donc, moi, j'ai boxé en élite, ce qui est le plus haut niveau de la boxe française. Donc, j'en ai fait une bonne partie de ma vie. Ça m'a pris à peu près 14 ans de ma vie. Ben, maintenant, je suis passé de l'autre côté de la barrière. Et maintenant, c'est moi qui suis encadrant. Donc, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur. Et actuellement, maintenant, c'est moi qui essaie de faire évoluer mes pratiquantes en compétition. Donc, on est une équipe de plusieurs entraîneurs à la salle. On se répartit un petit peu les tâches. Et puis maintenant, c'est moi qui donne de mon temps.
Est-ce que vous avez mal quand vous recevez les coups ? Comment gérez-vous la douleur ?
Alors effectivement, quand on est dans une discipline de percussion, surtout en combat, et au niveau où j'ai boxé, les coups, bien sûr, peuvent faire mal, ce qui est logique. Par contre, en boxe, il y a un principe, c'est savoir donner une percussion, donc savoir donner un coup, sans en recevoir derrière. Contrairement à des combats, on va dire, de boxe anglaise qui sont à mi-distance, où on voit vraiment deux boxeurs s'affronter de façon très, quand même, très dure, avec des échanges assez intenses. Et vu la distance dans laquelle nous évoluons, en fait, la distance de jambes et la mobilité, on arrive très vite à savoir toucher les partenaires sans se faire toucher derrière. Par contre, c'est vrai qu'en boxe française, tout notre corps est une surface est une cible. Contrairement à la boxe anglaise, où on va travailler uniquement sur le tronc, donc le ventre, et la face, le visage. Donc bien sûr qu'on apprend aussi à recevoir les coups, donc bien sûr avec une bonne contraction musculaire, on apprend aussi à gérer la douleur. Donc il y a une grosse, grosse dimension psychologique. Donc il y a une préparation par rapport à ça. On apprend à gérer, à ne pas forcément y penser. Et c'est vrai que pendant l'échange, on ne fait pas forcément attention. Le cerveau est tellement, si tu veux, occupé et concentré dans le combat, qu'on n'a pas forcément tout de suite, si tu veux, les premières réactions du corps, donc ressentir les premiers hématomes ou bien les petites douleurs. Ça, malheureusement, ça vient après la douche.
Quelles peuvent être les reconversions professionnelles pour un boxeur ?
Moi, pendant longtemps, quand j'étais professionnel, on va dire, ou élite, en salle de boxe française, j'étais assistant d'éducation dans un lycée. Et puis un beau jour, voilà, j'ai voulu vraiment faire de ma passion une activité à temps complet, mais sans forcément rester que dans la boxe. Donc moi, je me suis engagé dans un concours BPJEPS, c'est vraiment le concours pour devenir éducateur sportif dans toutes les activités. J'ai choisi la spécialité APT, donc activité physique pour tous. Au jour d'aujourd'hui, maintenant, j'ai passé mon concours que j'ai eu et j'interviens dans différents domaines, dans la remise en forme, dans le domaine, on va dire, scolaire aussi, avec des enfants au sein d'un cadre scolaire. Et je me suis vraiment beaucoup spécialisé aussi dans le domaine senior. Donc j'interviens aussi beaucoup en gym mémoire, donc de l'activité physique pour permettre aux personnes seniors de garder une stimulation cérébrale dans le domaine de l'équilibre et de l'autonomie. Donc réussir à toujours retravailler sur de l'apprentissage fonctionnel. Garder un petit peu les fonctions de base, les habiletés motrices. Donc travailler sur la posture, savoir s'équilibrer. Voilà, garder si tu veux un réflexe des réflexes que l'on peut avoir, mais que malheureusement qu'une personne assez âgée ne peut plus avoir. Tout simplement quand on chute, savoir se positionner, comment tomber, comment se relever. Donc j'interviens aussi beaucoup dans l'équilibre. Dans tout ce qui est autonomie, quoi. Donc réussir à retravailler sur le tonus musculaire des personnes âgées pour qu'au quotidien, ils puissent être autonomes. Je suis éducateur sportif et au quotidien, là, je vis de ma passion qui reste le sport. Et à côté de ça, maintenant, je vais être embauché aussi au niveau de la salle de boxe pour développer un peu la salle de boxe, développer l'école qu'actuellement on est en train de monter avec Georges Lagny, enfin qu'on a augmenté depuis un certain nombre d'années, mais maintenant qui demande uniquement à être développé. C'est un petit peu notre cheval de bataille actuellement.
Êtes-vous impliqué auprès des jeunes? Pouvez-vous nous expliquer comment?
C'est une très bonne question. Donc, est-ce que je suis impliqué auprès des jeunes? Bah, forcément, oui, quand on intervient dans le domaine sportif. La relève, c'est vous. Et puis maintenant, nous, on demande qu'à vous faire véhiculer, on va dire, certains apprentissages au niveau sportif. Au-delà de ça, notre but à nous premier, c'est vraiment de vous préparer à la vie. Donc, vous transmettre des valeurs civiques, pour pouvoir bien sûr grandir avec un équilibre. Vous transmettre aussi des savoir-être, comment devenir un adulte, comment se comporter en société. Et comment, grâce au sport, bien sûr, me permettre d'avoir un cadre qui puisse me pousser à étudier, puis à avoir une profession qui puisse me satisfaire. Donc les jeunes sont notre vraiment priorité au niveau du club. Donc c'est pour ça qu'on prépare, si tu veux, un contrat à mi-temps au niveau de la salle de boxe pour qu'on puisse développer un petit peu l'école qu'on construit au quotidien avec différents jeunes que nous avons. Bien sûr, notre but à nous premier, c'est d'avoir des jeunes à la salle pour éviter qu'ils soient à l'extérieur, dehors. On a la chance d'avoir un club vraiment très riche, où il y a vraiment une grosse confrontation des catégories socio-professionnelles, c'est vraiment assez éclectique, c'est voire même très cosmopolite. Et donc c'est intéressant aussi que des enfants issus des quartiers puissent des fois se confronter et tisser des liens avec d'autres enfants qui sont d'origine un peu diverse, pour que ça puisse aussi leur apprendre un petit peu quels sont les principes qui leur permettront à eux de pouvoir évoluer avec les mêmes chances. Pour terminer, les adolescents aussi, on est clairement aussi vigilant par rapport à ce public-là, parce que c'est quand même un public qui demande vraiment à être encadré. Et puis de ce côté-là, nous avons la chance d'avoir des adolescents qui sont super, une bonne école aussi de boxe gérée par Georges Lagny. Et on travaille beaucoup aussi avec les centres sociaux de la ville de Joux-les-Tours. Donc je fais des séances pour les enfants qui sont, on va dire, gérées le mercredi et le soir dans des secteurs jeunes, notamment celui du Morier, encadré par Serge Tur. Donc je fais des séances aussi pour ces enfants-là qui n'ont pas forcément la chance de pouvoir pratiquer une discipline comme la boxe française au quotidien. Et donc ponctuellement, je fais des stages pour ces enfants issus de différentes situations, et cela leur est offert bien sûr gracieusement par un encadrement municipal.
Est-ce que vous êtes allé à l'école pour apprendre à enseigner ce sport?
Est-ce que je suis allé à l'école? Oui. Au début, l'école ne m'a pas forcément appris à enseigner ce sport. Donc voilà, j'ai eu un cursus universitaire. Bah, juste après ça, comme je te l'ai dit, en fait, j'ai travaillé beaucoup dans une école. J'ai travaillé dans un lycée. Par contre, maintenant, pour enseigner ce sport, oui, j'ai fait des formations fédérales qui m'ont permis de devenir entraîneur. Donc bien sûr, voilà, j'ai eu des cours théoriques, des cours pratiques qui m'ont permis de valider un diplôme d'entraîneur de savate boxe française. Et après avoir passé bien sûr des examens, je suis devenu entraîneur de boxe. L'école primaire, le collège, le lycée sont des outils efficaces qui te permettront plus tard de passer n'importe quelle formation, n'importe quel concours, et te permettre, si tu veux, de développer des compétences pour enseigner ce que tu veux, que ce soit dans le domaine sportif ou professionnel.
Quel est l'intérêt pour un enfant ou un adolescent de devenir boxer?
Alors l'intérêt pour un enfant ou un adolescent de venir boxer, dans un premier temps, c'est d'apprendre une discipline sportive. Et cette discipline, la boxe, en tout cas là, pour moi, je vais défendre un peu mon clocher, la savate boxe française, avant d'être un sport, c'est une école qui va te permettre de développer des compétences et d'acquérir des valeurs. Alors moi, le côté sportif, je le mettrai au second plan. Moi, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est vraiment sur la construction psychologique et mentale de l'enfant. C'est déjà dans un premier temps réussir à, grâce à la boxe française, développer de l'humain, d'accord, de l'humain. Comprendre un petit peu qui est l'être humain, qui sommes-nous. Et comment je peux vivre avec ces mêmes humains au quotidien, sans faire attention là aux différences, sans faire attention aux quelques, on va dire, disparités, que ce soit au niveau financier, au niveau ethnique, au niveau religieux. Donc c'est vraiment mettre les gens sur un même pied d'égalité. Et quand on est sur un même pied d'égalité, et ben tout de suite on prend en confiance. Et cette confiance permet après, au fur et à mesure, à un enfant de grandir, de s'épanouir, et à travers ça, voilà, pouvoir ne plus avoir de limites. La confiance en soi, ne pas se mettre de barrières, ne pas se mettre de limites, et pouvoir évoluer au quotidien sans avoir des préjugés par rapport à tout ce qui peut nous entourer, voilà, que ce soit dans la sphère sociale ou professionnelle. Ça veut dire, voilà, demain je suis un enfant, j'ai un but, j'ai un rêve, Et ben la boxe, je vais développer voilà des choses, de la confiance, prendre aussi sur le grâce on va dire à un sport de performance comme celui-ci en force mentale pour pouvoir aller le plus loin possible et réaliser mes rêves. Et après le côté bien sûr sportif pour moi il est vraiment en second plan. C'est vraiment sur ça qu'on s'efforce de travailler.
Quel est le matériel nécessaire ?
Quand on évolue dans un premier temps dans un domaine on va dire purement loisir ou éducatif, on prête les gants chez nous en tout cas dans notre club au Morier, à la boxe française. Ça va être Jocondienne, on prête les gants de boxe. Voilà. Après, pour le reste, il suffit simplement d'avoir un short, un petit jogging avec une paire de running avec des bons lacets pour pouvoir évoluer. Si maintenant tu évolues vraiment dans une sphère compétitive, il va falloir un petit peu plus de matériel, donc une paire de savates, comme le nom l'indique. Une paire de savates, donc c'est une paire de chaussures montantes avec laquelle on travaille sur de la percussion, une bonne paire de gants, une coquille, un protège-dents et une combinaison de boxe française. Parce que nous, en boxe française, contrairement au kickboxing ou à la boxe thaï ou à la boxe anglaise, on n'est pas en short, on est en pantalon.
Comment fait-on pour s'inscrire au club ? Où est-ce que les séances se déroulent ?
Pour s'inscrire au club, c'est très simple. Il suffit voilà, de franchir la porte, voilà, de l'ouvrir, voilà, de la fermer derrière, de rentrer, de venir s'adresser à moi en me disant bah, « Écoute, je voudrais m'inscrire ». Donc dans un premier temps, nous, ce qu'on fait, c'est que voilà, on propose à tout adhérent, quel qu'il soit, que ce soit un enfant ou un adulte, d'évoluer chez nous pendant 15 jours, gratuitement, voir si la discipline lui plaît, si l'environnement lui plaît. Et après, quand la personne a vraiment pris un choix assez... on l'inscrit directement, donc on lui demande simplement de payer, on va dire, sa licence et les cotisations. Les séances, par contre, nous, se déroulent à la salle du Morier. C'est la salle qui est collée, en fait, à l'école primaire. Et donc, c'est là-bas où est située la salle de boxe. Et c'est donc on intervient là-bas pratiquement tous les jours de la semaine à des horaires très différents.
Monsieur Bogart, je vous remercie pour cette interview. On continue en chanson avec Stromae et le titre Papa Outé.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, 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 où t'es, où papa, où t'es? Quoi, qu'on y croit ou pas, y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables? Hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais d'où on aurait hérité, c'est ça, faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Papa, dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa,
dis-moi où es-tu caché. Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Boudé, va pas boudé, boudé, va pas boudé, boudé, va pas boudé.
Vous êtes toujours en train de écouter Radio Cada.
On écoute maintenant deux portraits de résidents.
Le premier est originaire du Soudan et le second d'Égypte.
Radio Cada.
Pouvez-vous nous dire votre pays d'origine?
Le Soudan.
Au Soudan.
Est-ce que vous aimez la France?
Ok, taban.
Bien sûr.
Depuis combien d'années vivez-vous en France?
Sana.
Un an.
D'après vous, qu'est-ce que le CADA?
Le CADA, هي على حسب علمي ان هي زي جهه بتستلم اللاجئين لغاية لما يكون عنده موضع يعني في البلد.
Parce que il aide les demandeurs d'asile et tout le monde.
Qu'est-ce qui fait quand tu viens au CADA?
أول ما بيجي من الكادا طبعا بيستلموني وبيبتدوا يعملوا لي الإجراءات بتاعتي المفروض تتعمل.
Fais les papiers pour demander d'asile.
Aimais-tu le CADA? Pourquoi?
لأنه هي في البداية بتفتح لي الطريق لباقي حياتي في فرنسا.
Il ouvre la vie en France.
Pourquoi les intervenants sociaux du CADA veulent aider?
عشان ده شغل أنا أفتكر.
Ce travail d'elle.
Et ce qu'ils ont de les parents et les enfants.
ما أنا ذكرتها يعني قلت لكم إن الحاجة دي عشان ده الشغل اللي هي مفروض تعمله لأنه أنا جديد في البلد وما بعرف الإجراءات بتمشي كيف وقوانين البلد كيف.
Parce que c'est son travail, mais il sait pas comment elle fait les papiers et tout ça.
Quel est le premier lui où veut était arrivé en France?
Orléans.
Il est à Orléans.
Est-ce que la langue française est facile?
أنا عايش في فرنسا لازم أتعلم اللغة الفرنسية. بعدين اللغة الفرنسية سهلة بالنسبة لي لأنه أنا أساساً اللغة بتاعتي الأصلية الإنجليزي.
Oui. Parce que les langues françaises, pour lui, c'est facile. Parce que lui, il parle anglais.
Comment faites-vous pour apprendre la langue française?
متعلمة عن طريق أساتذة في منظمة اسمها Restaurant Décor.
Elle prend à l'école. C'est Restaurant Décor, je ne sais pas. Il va là-bas le mardi et le jeudi.
Comment se passe votre condition au CADA?
كده استلم الورق بتاعي وانتقل لمرحلة تانية اللي هي زي CBH أو أشيلهم للبيت التاني. بعد كده بكون يعني أخذت الإقامة وبعد كده بمارس حياتي طبيعي.
Après, comme ils ont les papiers, il va en lettre maison, il va au CHLM. Et voilà, il va continuer la vie et tout ça.
Que se passera-t-il pour vous après votre 100 jours au CADA?
خلاص هنتقل لمرحلة تانية من حياتي.
Il va l'autre, comme ils ont les papiers, il va partir à l'autre maison. Et...
Radio Canada. Pouvez-vous nous dire votre pays d'origine?
Je suis égyptien.
Est-ce que vous aimez la France?
Akid.
Bien sûr.
Depuis combien d'années vivez-vous en France?
أنا بقالي بالضبط تقريبا حوالي سنة ونص.
أنا إيمي.
D'après vous, qu'est-ce que le CADA?
الكADA هي المكان اللي أنا قاعد فيه اللي أنا قاعد اللي أوياني فيه اللي أنا قاعد فيه يعني اللي حمياني فيه.
Le CADA, c'est une maison pour lui. C'est bien pour lui.
Qu'est-ce qui fait que tu viens au CADA?
Je n'ai pas de demande d'asile.
C'est pour le demande d'asile.
Aimes-tu le CADA? Pourquoi?
J'aime le CADA parce que le CADA est le محضره لي اوضه اقعد فيها. اللي محضره لي مكان انام فيه، مكان اكل فيه، مكان اشرب فيه، مكان يحميني من السقعه، الحاجات دي كلها.
Le CADA c'est pour il a donné pour lui une chambre pour dormir, pour boire, il fait pas froid.
Pourquoi les intérimaires sociaires du CADA veulent aider et ce qu'il en donne la prendre et les enfants.
يعني عشان خاطر عارف ان انا يعني ما عنديش حد اتكلم معاه، ما عنديش حد يفهمني، ما عنديش حد اشرح له ايه المشاكل اللي عندي، فهي بالتالي هي اللي بتساعدني في اي مشكله عندي.
Il a pas quelqu'un, il discute avec lui. Les sociétés sociales, il fait le travail, les papiers, tout ça pour lui.
Quel est le premier lion où vous étiez arrivé en France?
أنا نزلت الأول في باريس، في المطار في باريس، وبعد كده رحت ليون قدمت هناك، وبعد كده جيت على هنا.
Le premier, il est à Paris. Après, il est parti à Lyon. Après, à Tours.
Est-ce que la langue française est facile et ce que vous l'appelez?
اللغه الفرنسيه بالنسبه لي هي مش سهله قوي لان انا اول مره ادرس اللغه الفرنسيه le premier وبس انا حابب اللغه الفرنسيه وحاببها جدا وبحاول اعمل اي حاجه عشان اتعلمها عشان اقدر اعيش في البلد ديت واعمل واشتغل بقى ويعني ونعيش في الحياه يعني نبقى انسان طبيعي.
Pour apprendre le français, il a dit c'est pas facile pour lui parce que c'est la première fois il prend le français, mais lui il veut prendre le français parce que c'est la vie, après il veut travailler.
Comment faites-vous pour apprendre la langue française?
مشترك في كذا كورس.
Il va aller au col.
Que se passera-t-il pour vous après votre stage au CADA?
اهم حاجه اهم حاجه من الورق مجرد ان اخد الورق على طول اكيد لازم هدور على شغل وابتدي اشتغل يعني ده اهم نقطه تهمني جدا يعني في اول ما احصل على الورق يعني.
S'il va prendre les papiers, il va travailler. C'est le premier truc qu'il va faire.
وانا يعني كنت شغال في بلدي في مجال الملابس. واخد مجال الملابس من اول حاجه في الملابس لغايه لدرجه عاليه جدا في الملابس يعني الحمد لله يعني وصلت لدرجات عاليه في الملابس حوالي اكتر من 10 سنين في مجال الملابس. بس انا حابب فرنسا وحابب اشتغل وحابب انتج حابب أنتك فيها؟ يعني حابب إن الإنسان يكون فعال، يعني زي ما البلد بتدي الواحد لازم يدي للبلد هو كمان. فحابب جدا، يعني مش هتفرق قد كده الشغل، بس لو طبعا لو في مجال الشغل يوقف يكون أفضل.
Lui avant se sont payés et travaillés pour les vêtements.
هدور على شغل في مجالي أو ما يشبه ذلك.
Il va travailler pour les vêtements aussi. Et lui, il aime bien la France. La France, comme il donne lui quelque chose, lui aussi, il veut donner la France quelque chose.
Merci beaucoup pour tout ça que vous disiez.
Merci. Et vous?
Après ces deux cartes postales, on retrouve maintenant la troisième chronique sportive avec l'athlétisme.
L'athlétisme permet de bouger son corps avec la course, le lancer, le saut, la marche. Il est connu par les Jeux olympiques et championnats du monde où l'Europe est un sport qui sont pratiqués à l'école et en dehors dans un club sportif. Je suis allée rencontrer Monsieur Noah Calombo, athlète et animateur, inscrit au club de jouer les tours pour lui poser quelques questions.
Radio Kada.
Bonjour Monsieur Calombo.
Bonjour.
Pouvez-vous vous présenter?
Moi je suis encadreur au club de jouer les tours athlétisme et je suis aussi athlète. J'ai fait des compètes. Je suis aussi intervenant dans les écoles. Et j'anime aussi de temps en temps quand on m'appelle. Donc je suis athlète comme tout le monde. Et j'ai 27 ans.
Quelle spécialité dans l'athlétisme pratiquez-vous?
Moi, je suis sprinter, plus 200 et 400 mètres. Et de temps en temps, je fais les 100 mètres. Mais c'est plus ma spécialité, ma discipline préférée, c'est les 200 mètres.
Et ce que vous sautez des obstacles?
Non, mais en fait, moi, c'est 400 mètres, c'est plat, 200 mètres plat aussi. Donc, je saute pas et à ma course, il n'y a pas d'obstacle. Donc, c'est une course, en fait, nous, on appelle ça une course, en fait, il y a sans obstacle, comme le 200 mètres, c'est, chez les seniors, il n'y a pas de haie. C'est rare dans d'autres compètes, mais dans nos des compètes, par exemple, au niveau de la fédération, c'est souvent sans obstacle. Et puis, moi, je suis pas spécialiste pour ça. Je suis plus pointeur sans obstacle.
Participez-vous à l'athlétisme en compétition? Si oui, et à quelle place avez-vous déjà été classé?
Si on parle des classements au niveau de la fédération, j'ai pas vraiment regardé, mais cette année, la saison 2013-2014, j'ai été champion régional aux 400 mètres senior et finaliste aux 200 mètres senior aussi dans la région. Et j'ai fait 49 secondes aux 400 et 22 secondes aux 200 mètres cette année. Et les objectifs, on verra encore la saison prochaine. Là, on est encore en préparation. Donc, on verra.
Aimez-vous d'autres sports?
Oui. Je suis plutôt sportif aussi dans ma famille. C'est le sport, en fait. Au début, j'ai commencé comme tout le monde, le foot. On joue tous au foot quand on est gamin. Et je suis passé au basket. Et après, je suis retourné encore au foot en tant que gardien de but. Et puis, c'est à l'âge de 17 ans où j'ai découvert l'athlé. Mais oui, j'aime bien les autres sports comme le basket, foot, natation, pas mal, ouais.
Est-ce que l'athlète est votre métier? Sinon, que faites-vous au quotidien?
Au quotidien, ah d'accord. Moi, je fais les études d'art plastique. C'est pas mon métier. Bon, au niveau régional, tu peux pas vivre avec l'athlétisme. Donc, je suis encadreur, comme j'ai dit. J'encadre aussi au club. Et puis, ça me permet aussi d'avoir un peu quelque chose à la fin du mois. Et puis là, j'ai fait des formations pour devenir entraîneur. Parce que l'athlétisme, on va pas faire toute la vie. Ben, à un certain moment, il faut arrêter et encadrer les jeunes et puis voir ailleurs. Mais après, moi, je suis plus encadreur. Dans le futur, là, c'est une préparation avec le club, un projet. Et je suis aussi artiste peintre. J'ai eu mon diplôme en art plastique au Congo Kinshasa, en Afrique.
Qu'est-ce qui vous plaît dans ce sport?
Ce qui me plaît dans ces sports, c'est déjà c'est un sport individuel. Je préfère des sports individuels là où tu te surpasses. En fait, c'est toi-même. En fait, j'adore l'athlé depuis jeune âge. Mon frère a fait l'athlé. Il était champion d'Afrique centrale. Quand j'ai vu, ça m'a beaucoup plu. Et puis après, pour moi, l'athlétisme, c'est. On parle de l'athlétisme individuel, mais aussi il y a aussi du côté collectif avec le groupe, l'ambiance. Et c'est ce qui me plaît, j'adore courir surtout, et c'est là où je me sens très très bien. Oui.
Combien d'entraînements par semaine faites-vous ?
Je m'entraîne, ça dépend, des fois j'arrive à entre 7 à 10 entraînements par jour, en fait plutôt pas par jour, par semaine. Je m'entraîne lundi jusqu'à vendredi, c'est sûr que toute la soirée j'ai fait l'athlé, et les matins ça dépend du jour, quand je suis libre j'essaie de faire quelques séances, mais c'est souvent entre 7 à 10 fois par semaine. En fait ça fait 2 ans que je suis passé à 7 à 10 fois par semaine, parce qu'au début je m'entraînais que 3 fois, parce que là j'ai quelques objectifs en fait pour... d'ici 2-3 ans pour voir où est-ce que je peux aller pour ne pas regretter plus tard. C'est pour ça que je me suis fixé ces objectifs-là, peut-être arrivant un jour au championnat de France ou finaliste championnat de France. Donc c'est pour ça que je suis passé à 7 à 10 fois et j'avoue que c'est un peu dur. Ben, on essaye quand même. Donc c'est des objectifs qu'il faut toujours se fixer dans la vie quand on veut quelque chose, quoi.
Comme sportif, est-ce que quand vous courez vite, vous avez déjà ressenti un point de côté ou un mal au cœur ? Comment faites-vous pour ne pas avoir de point de côté ?
De point de côté, souvent, ça m'arrive quand je fais longue distance, des crosses de temps en temps. Je suis un sprinter, mais je fais de temps en temps des crosses pour l'endurance. Ça m'est déjà arrivé, je dirais, 2 à 3 fois. Il y avait un coach qui m'avait dit, il faut juste ralentir un peu, tu expires bien, tu inspires bien, pendant un bon moment, au bout d'une minute, ça va partir. Et oui, ça marchait. Et des blessures, il y en a eu aussi pas mal, mais le point de côté, pas beaucoup. C'est souvent quand j'ai fait des longues distances, mais quand je fais du sprint, je dirais, ça m'est jamais arrivé pour l'instant.
Êtes-vous engagé autrement dans le club du Jouer les Tours ? L'athlétisme, que faites-vous ?
Je suis encadreur aussi. J'encadre aussi le poussin, super poussin, donc 7 à 10 ans. Et Benjamin Minim, j'interviens une fois par semaine le mardi. Et j'entraîne également aussi à partir des cadets jusqu'à seniors au club de jouets.
Comment se déroule un entraînement ?
En général, un entraînement, il faut toujours commencer par un échauffement. Un petit échauffement, le travail des articulations, et après faire la séance proprement dite, et après finir par un petit footing pour des récup. Et après, chaque séance, il faut toujours faire quelques abdos pour éviter le McDo, en fait, brûler tout ce qu'on mange comme fast-food et puis tout ce qui est gras. Donc, c'est intéressant aussi.
Est-ce que c'est ouvert aux filles et aux garçons?
Et oui, c'est ouvert à tout le monde, l'athlétisme. Donc, les filles, garçons, à partir de cette année, je crois que la fédération a ajouté aussi chez les tout-petits le baby-athlé. Je crois que c'est à partir des 4 ans, si je ne me trompe pas, 4-5 ans, et jusqu'à 112 ans, comme tu veux, 177 ans, 200 ans. L'athlé, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de problème des sexes, filles ou garçons. C'est tout le monde. Comme dans les clubs, je dirais, dans les catégorie, en fait, niveau de catégorie Benjamin Mini, on a plus de filles que les gars. Comme cette année, on a à peu près, je crois, 26 filles chez les Mini. Et chez les gars, on est à 12 ou 16 à peu près, comme ça. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Oui.
Comment ça se passe pour les handicapés ?
Les sportifs handicapés, en fait, chez nous, pour l'instant, on n'a pas encore eu des handicapés. Ils sont tous le bienvenu chez nous et c'est ouvert, comme j'ai dit tout à l'heure, l'athlétisme est ouvert aussi à tout le monde, toi tu sois handicapé ou pas. Et comme j'ai dit, il y a les championnats de France aussi pour eux, il y a les Jeux Olympiques pour eux et puis les championnats du monde aussi. C'est ouvert à tout le monde, s'il y a des handicapés, tu peux venir sans problème chez nous. Donc l'athlétisme, c'est ouvert à tout le monde.
Comment est-ce que cela se passe pour les enfants ou adolescents qui voulons s'inscrire au club de jouer les tours?
C'est tout simple, c'est juste passer au club. Pour les ados, en fait, le Benjamin, je dirais Benjamin minime, c'est tous les mardis et vendredis, 18h30, 20h30. Chez les petits, c'est tout le mercredi, des 18h à 19h30. Et chez les grands également, à partir des cadets jusqu'aux vétérans, c'est lundi, mardi, mercredi et vendredi, des 18h30 à 20h30. Donc, on a aussi notre site d'athlétisme, en fait, pour le club de jouets. Je crois que c'est Jouer Athlé. Vous pouvez avoir plus de renseignements et tout ça, ou passer au club au stade Jean-Point, en fait. Et c'est là où on s'entraîne tous les jours, on est là. Il y a toujours quelqu'un, sauf peut-être le jeudi, mais les autres jours, on est là.
Est-ce que vous étiez allé à l'école pour enseigner un sport?
Je n'ai pas fait les études pour le sport. Comme j'ai dit, je suis peintre, en fait, à la base. Je suis artiste peintre. Et là, j'ai fait des formations, en fait, pour devenir entraîneur plus tard. Et là, je suis en formation, j'ai fait des formations, j'ai eu mon diplôme au premier degré moins de 16 ans. Et là, je peux passer une autre formation des spécialisations, en fait, sprint et. Il y a aussi une autre formation que je dois passer d'ici peu, dans un mois ou deux mois, pour devenir entraîneur plus tard. Donc, c'est un projet pour moi et pour les clubs aussi. Donc, c'est quelque chose que j'aime bien, rester. C'est mon milieu, c'est l'endroit où je me sens très bien dans l'athlé. Donc, pourquoi pas continuer à devenir entraîneur.
Je vous remercie pour cette interview. On écoute maintenant Jules avec le titre Briganté.
Partout, y'a des petits gantés, y'a des fous partout, y'a des petits gantés, y'a des fous partout, y'a des petits gantés, je suis fier de mon parcours, je joue pas le briganté, y'a des fous partout, y'a des petits gantés, je suis fier de mon parcours, je joue pas le briganté.
Laissez-moi, je suis dans mon délire, je suis personne, j'ai pas me vanter. Je vois les petits faire des délits, j'ai pas la tête à inventer. Tu voulais savoir ma vie, j'ai traîné et ça m'a scanné. J'ai grandi, j'ai vu mes amis, j'ai côtoyé ça fait des années. Dans moi tu m'en es un peu tous fous, en bruit ça sort les six coups. Si la famille vient boire un coup, ramène ta folle, on lui met son coup.
Y'a des fous partout, y'a des petits gantés. J'suis fier de mon parcours, j'joue pas le briganté. Y'a des fous partout, y'a des petits gantés. J'suis fier de mon parcours, j'joue pas le briganté. Y'a des fous partout, y'a des petits gantés. J'suis fier de mon parcours, j'joue pas le briganté.
Je pense à ta faux plaque ou ça vend du shit. Ce seul but en détruit, faire du chiffre. Je te paie par le mieux, tu vas te prendre. Faut que je rappe, je vois la foule qui s'agite. Mon tasso sur les califs, on est ailleurs. Liga One cette année, ça va foutre de fire. Ça fait plaisir de voir que ça me soutient. Comme devant ma tête sur les flyers. L'argent m'attire, je vais pas vous mentir. Il manque que ça pour pouvoir m'en sortir. Pour les petits fous qui portent tartin qui tout. Si ça te fait plaisir, alors dans sur ma zik. Encore un classique, et ouais, tu le sais magique. Je vis d'amour et de peine, crois pas que je boucane. Au début tout est rose, après tout le monde se boucane. Je chante même plus le week-end.
Y'a des fous partout, y'a des petits gantés. J'suis fier de mon parcours, j'joue pas le briganté. Y'a des fous partout, y'a des petits gantés. J'suis fier de mon parcours, j'joue pas le briganté. Y'a des fous partout, y'a des petits gantés. J'suis fier de mon parcours, j'suis pas le briganté. Y'a des fous partout, y'a des petits gantés. J'suis fier de mon parcours, j'suis pas le briganté.
La 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 la
De retour dans Radio Kada. On finit l'émission avec un dernier portrait.
On part cette fois-ci en Albanie.
Radio Kada, salut!
Pouvez-vous nous dire votre pays d'origine?
Mon pays d'origine, c'est l'Albanie.
Est-ce que vous aimez la France?
Oui, j'aime la France. Pour cette raison, j'ai choisi pour entrer en France et pour chercher d'asile ici en France, parce que j'aime beaucoup la France.
Depuis combien d'années vous vivez-vous en France?
J'ai entré en France depuis 23 février 2013. Je pense que j'ai plus d'une année.
D'après vous, qu'est-ce que c'est les CADA?
Pour moi, CADA, c'est une grande maison pour être protégée avec les filles, parce que j'ai deux filles. Et à CADA, je suis protégée comme une maison. Et j'ai l'aide de mon assistant social. Voilà.
Qu'est-ce que c'est que fait que tu viens au CADA?
Alors, je fais beaucoup de choses. J'ai fait théâtre avec mon assistant social pour Noël. J'ai fait mon papier, mon document. Je fais qu'est-ce que je pense que c'est bien pour faire, je fais.
Aimes-tu le CADA et pourquoi?
J'aime CADA parce que je trouvais ici une staff professionnelle. Je travaille avec la personne qui connaît bien les lois. Je trouvais la tranquillité. Je suis contente.
Pourquoi le social dit le CADA, vous êtes. Pourquoi vous êtes le CADA?
Alors, vraiment, je n'ai pas connu les raisons de pourquoi l'assistance sociale aide nous. Mais je connais une chose. Nous sommes les personnes humaines, comme toutes les personnes ici en France. Nous sommes. J'aime les personnes, je pense que l'assistance sociale sont pas racistes. Assistance sociale, moi avant l'Albanie, je travaille comme assistante sociale et comme journaliste aussi. Et je pense que l'assistance sociale ici à CADA travaille avec le cœur pour aider les personnes à difficulté qu'elles ont le problème. À longue pour composer un papier, pour faire le document. Et ça, c'est un grand travail de tout assistant social ici à CADA. Et je respecte beaucoup.
Est-ce qu'ils aident les parents et les enfants?
Tout l'assistant social ici à CADA, directeur aussi, tout le personnel. Je pense tous les jours, tous les mercredis, pour les vacances aussi, sont trouvés une solution pour aider les enfants à CADA avec l'activité, avec le jouet, avec le spectacle. Oui, je pense qu'aide beaucoup avec toute la participation pour les enfants, avec toute l'activité. Et son assistant social qui a trouvé une solution pour tous les enfants de CADA.
Quel est le premier lieu où vous êtes arrivé en France?
Alors, je pense que la première ville, c'est la ville de Paris. Mais je ne suis pas contente pour ça, parce que Paris, c'est une ville belle pour tout le monde. Mais pour mon situation, pour première fois, j'étais très, très mal parce que j'avais deux petites filles avec moi. J'avais perdu valise à l'aéroport Charles de Gaulle. J'ai perdu beaucoup, beaucoup d'argent à cause de... parce que je reste à l'hôtel pour trouver la valise. Et à Paris, je pense que c'est pour moi, c'est pas bon.
Est-ce que la langue française est facile? Est-ce que vous la parlez?
Alors, pour dire vraiment, jamais je parle français avant. Je commence pour parler français quand j'entrais en France et je prends vite tout le cours de français pour apprendre bien le français. Je trouvais que avec travail, c'est pas difficile. Mais comme langue, comme était avec origine de latin, elle est très difficile pour apprendre bien, pour écrire et l'orthographe, et prononciation pour nous qui sommes avec un alphabet différent. C'est très difficile, mais avec travail, c'est facile pour apprendre.
Comment faites-vous pour apprendre la langue française?
Alors, comme j'explique, j'entrais à tout le cours de français. J'ai fait une inscription à Greta. Greta, c'est une organisation comme école pour étrangers qui donnait l'or pour apprendre français. Et j'étais là-bas 4 fois. J'ai fait tous les cours à cette lycée pour apprendre le français. Je prends le français à côté de la cathédrale. C'est une petite accueil pour apprendre le français. J'ai un professeur de français aussi qui me donne le cours de français chaque vendredi. Et je suis content comme ça.
Comment s'est passé votre cadet au CADA?
Oui, c'est pas comme à maison. C'est difficile pour partager la vie avec une autre famille. Pour rester à vie, c'est important pour toutes les difficultés. Parce que la vie, c'est pas tous les jours simple. La vie est quelquefois avec le haut et le bas. Et comme ça, je trouvais une solution pour rester tranquille à CADA, pour partager la maison avec une autre famille, pour trouver une solution pour être confortable avec autre famille. Et je pense, j'ai un an et j'ai jamais un problème. Et je pense que c'est le personnel de CADA aussi qui choisit quelques problèmes avec autre famille. C'est pas nous.
Que se passait-il pour vous après votre séjour au CADA?
Important pour moi que je gagnais le papier maintenant. Et j'espère pour toute famille ici à CADA. Parce que pour être sans document, c'est difficile pour rester à CADA. Maintenant que j'ai gagné papier, l'importante chose pour moi est pour trouver une maison, pour être tranquille avec ma fille, mes filles, et pour commencer avec français, pour commencer avec les études ici à France. Parce que quand je fais tout à l'Albanie et j'ai perdu, l'important est que je commence à début encore ici à France. Je trouvais la force pour commencer encore de début. Et je dis merci à France pour toute la protection et pour toutes les choses qu'elle m'a données.
Merci.
C'est ma plaisir.
L'émission touche à sa fin. On remercie toutes les personnes interrogées. Plus d'informations au sujet de cette émission sur le site internet de Radio Campus Tour, www.radiocampustour.com. A bientôt sur Radio CADA.
Au revoir!
Mais c'était pas...
Radio Kada.